Alors, chers amis, je ne vais pas faire une intervention trop hagiographique, parce que d'abord, ce n'est pas de mes compétences, je n'ai pas qualification dans les oraisons funèbres. Je me placerai plutôt, comme le disait le père Nicolas tout à l'heure, dans la perspective, si vous voulez, de cet effort collectif de réception d'une œuvre d'un grand théologien du XXe siècle, donc qu'est Vladimir Lossky, et à propos d'un point particulier, de plusieurs points, on verra lesquels, de l'ecclésiologie, autrement dit, de sa vision théologique du mystère de l'Église. Je rappellerai en deux mots, tout d'abord, ce que chacun sait, mais c'est bon aussi de le rappeler, que Vladimir Lossky s'insère dans ce courant néopatristique, un mouvement en fait informel, désireux de rompre avec la philosophie religieuse et de revenir au Père, où se sont signalés des théologiens aussi divers que le père Cyprien Kern, on l'a évoqué, mais aussi Mira Lotborodine, une Russe de la première génération d'avant même les émigrés de la Révolution, avec qui la famille Lossky était liée d'amitié, et puis enfin la grande figure du père Georges Florovsky, qu'on a également évoqué tout à l'heure. Ce dernier a exercé une profonde influence sur Vladimir Lossky, qui le présentait d'ailleurs en 1956 comme peut-être le plus grand théologien orthodoxe de l'époque. Si Vladimir Lossky s'intègre dans ce mouvement, il le dépasse et le surplombe par des contributions décisives. Je mentionne pour mémoire quelques-unes d'entre elles. La réflexion sur la dimension apophatique de la théologie chrétienne. On l'a évoqué il y a 10 ans, lors du 40e anniversaire de la mort de Vladimir Lossky. On avait fait ici un colloque considérable où il y avait un certain nombre de professeurs de la Sorbonne, etc. Et puis surtout, je crois, le plus essentiel, c'est la théologie de la personne. Théologie de la personne que j'ai eu l'occasion d'étudier dans le détail de mon travail de maîtrise ici à l'Institut, sous la direction du père Boris Bobrinskoy et du père Nicolas Lossky, donc qui constitue à mon sens le motif le plus fondamental de son œuvre. Et je ne veux pas revenir une nouvelle fois sur ses acquis indiscutables pour la conscience dogmatique orthodoxe contemporaine, mais aborder quelques points d'ecclésiologie. Le thème de la personne n'est pas, chez Vladimir Lossky, une vérité anthropologique abstraite. C'est dans son corps, c'est-à-dire l'Église, que le Christ nous donne de pouvoir devenir des personnes véritables. Autrement dit, devenir une personne, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose que l'on peut ajouter à sa vie, c'est le sens même du but de nos existences. Si vous voulez, c'est une manière, je dirais, de reformuler le thème classique du salut. Aujourd'hui, c'est difficile de parler du salut dans notre société. On ne sait pas ce que ça veut dire, le salut. Mais par contre, devenir des personnes, ça veut dire quelque chose. Alors, en s'appuyant sur les pères, Lossky souligne que non seulement l'Église est l'œuvre de la Sainte Trinité, mais elle puise son modèle dans la communion trinitaire, qui est une communion de personnes divines. Dans le cadre de cette approche patristique, je voudrais m'intéresser ici, vous intéresser, à la manière dont Lossky a tenté de résoudre deux questions connexes qui intéressent la réflexion orthodoxe depuis au moins un siècle. D'une part, le problème de la synthèse ecclésiologique entre christologie et pneumatologie, c'est-à-dire compréhension du mystère du Christ et celui de l'Esprit-Saint, en relation avec le mystère de l'Église, et la juste considération de la place et du rôle de chacun, donc du Verbe et de l'Esprit-Saint, dans l'être de l'Église. D'autre part, la question du juste rapport entre la personne et la collectivité ecclésiale, en lien avec la signification de l'unité et de ce qu'on appelle la catholicité, catholicité de l'Église. Et je conclurai par la dimension kénotique, excusez-moi de ce jargon théologique, kénotique, c'est vraiment le sens de l'évidement du Verbe de Dieu dans son incarnation, dans sa passion, dans toute sa vie, dans son offrande pour le salut du monde. Donc je conclurai par la dimension kénotique de la personne dans l'Église. Tout d'abord, premier point, l'œuvre conjointe du Christ et de l'Esprit-Saint dans la vie ecclésiale. Je dirai en introduction que l'ecclésiologie de ce qu'on appelle l'école russe au XIXe siècle avait dans sa diversité, était partagée entre un courant scolastique et un courant patristique. Elle avait valorisé trois grandes figures bibliques de l'Église. La première, l'Église comme peuple de Dieu, avec notamment la Sobornost, on y reviendra, ce sens de la symphonicité. Deuxièmement, l'Église comme corps du Christ, tout à fait classique et paulinien. Troisièmement, l'Église comme temple du Saint-Esprit, également un thème paulinien. Mais un des problèmes pendant demeurait l'articulation exacte de ces différentes facettes du mystère dans une vision globale de l'être ecclésial. Dans son approche synthétique, Vladimir Lossky considère l'Église comme étant à la fois l'œuvre du Fils et du Saint-Esprit, envoyé au pluriel, envoyé dans le monde par le Père. L'Église présente pour lui en même temps la nouvelle unité de la nature humaine restaurée en Christ, dans son corps divino-humain, et la multiplicité des personnes dont chacune reçoit le don de l'Esprit. Les événements fondateurs de l'Église correspondent pour Lossky aux deux pôles humains, nature, personne. L'humanité représente une nature et une myriade de personnes. Ici, personne donc est au pluriel. L'incarnation-rédemption, c'est le fondement christologique, assure l'unité de nature. Nous sommes tous assumés en Christ. Notre nature est assumée par Jésus-Christ. Tandis que la Pentecôte, fondement pneumatologique, est pour Vladimir Lossky, je cite, « l'affirmation de la multiplicité des personnes dans l'Église ». Cette ecclésiologie ainsi développée est la vision d'un rapport qu'on pourrait dire dialectique, c'est-à-dire qu'un pôle renvoie à l'autre et réciproquement, entre les fonctions du Christ et de l'Esprit-Saint. Face à la polarité nature-personne, Lossky voit dans l'économie du salut une sorte de répartition des rôles entre les deux mains du Père, comme dit saint Irénée à propos du Fils et de l'Esprit. La restauration de la nature humaine est assurée par l'action du Christ, tandis que celle des personnes humaines est faite par l'action de l'Esprit-Saint. Effectivement, l'humanité se trouve mise en contact avec la nature divine par la médiation du Verbe incarné, tandis que chaque personne humaine particulière est appelée à être configurée au Christ, c'est-à-dire déifiée, nous en reparlerons cet après-midi, déifiée par la grâce de l'Esprit-Saint, l'Esprit qui permet au caractère personnel de l'homme de s'accomplir pleinement à l'image du Christ. Ce schéma ecclésiologique bipolaire a le mérite d'être simple, mais c'est cette simplicité, peut-être excessive, qui a été dénoncée rapidement, non sans raison, par de nombreux théologiens orthodoxes, à commencer par le père Georges Florovski, qu'admirait tant Vladimir Lossky. Florovski considère à juste titre comme artificiel le fait que pour déterminer les secteurs d'application du salut, entre guillemets, Vladimir Lossky ait disjoint la zone nature de la zone personne à l'intérieur d'un même sujet humain. Et il lui paraît arbitraire d'attribuer à chacune de ces dimensions de l'homme un agent du salut différent. Au Christ la nature, à l'Esprit la personne. En ne reliant le « je » chrétien qu'à l'Esprit-Saint, la conception de Lossky, écrit-il, ne laisse pas assez de place à la relation personnelle des individus avec le Christ. Cette théorie contredit, dit-il, « je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Non, pardon, ça c'est pas lui, ça c'est moi. Effectivement, vous lisez dans l'Évangile, Jean 10, « je connais mes brebis ». Et mes brebis me connaissent. Il y a donc cette relation personnelle, directe avec le Sauveur. Il y a cette expérience de rencontre personnelle aussi du Christ dans les sacrements. La thèse, donc, l'Église est une dans le Christ, et multiple par l'esprit, cette thèse est forcée. La diversité catholique est déjà assurée par la rencontre de chaque croyant avec le Christ dans l'acte de foi et dans la vie sacramentelle. Toutefois, comme l'écrit Olivier Clément, il ne faut pas durcir les formules ni mécaniser la pensée d'un auteur, Vladimir Lossky, pour lequel la notion de nature est inséparable de celle de personne. En réalité, la critique du père Florovski, si elle nous paraît judicieuse, a un peu simplifié la vision lossienne en laissant de côté des considérations importantes. La formule « l'œuvre du Christ unifie, l'œuvre du Saint-Esprit diversifie », formule que l'on trouve dans la théologie mystique, à la page 163, est certes une simplification malheureuse du mystère de l'économie du salut, mais elle dépasse sans vraiment résumer la pensée de Lossky qui est plus subtile. Vladimir Lossky souligne lui-même qu'on doit distinguer, et on l'a entendu tout à l'heure dans l'exposé de Françoise, on doit distinguer deux communications de l'Esprit-Saint à l'Église. L'une se fit, je cite Lossky, « l'une se fit par le souffle du Christ qui apparut aux apôtres le soir de la résurrection ». C'est Jean 20, ce qu'on appelle ici la Pentecôte johannique, Jean 20, 19. L'autre fut l'avènement personnel de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte, acte 2. Il y a donc deux modes de présence de l'Esprit-Saint dans l'économie divine. L'un, fonctionnel, selon Lossky, qui est la Pentecôte johannique, l'autre, personnel, qui est la Pentecôte lucanienne. Il distingue le rôle fonctionnel de l'Esprit, qui, insufflé par le Christ sur son corps ecclésial, assure à ce corps la cohésion et la sacramentalité, de son rôle personnel, qui instaure en Christ une relation unique avec chaque personne humaine. On pourrait discuter de la pertinence de ce terme de fonctionnel. Je ne trouve pas très très heureux, en tout cas pas très théologique, pour décrire l'action de l'Esprit-Saint dans l'évangile de Jean et pour désigner cette présence unifiante de l'Esprit-Saint qui est Esprit du Christ. Mais on voit donc que l'œuvre du Saint-Esprit unifie autant qu'elle diversifie. Et on le voit dans l'œuvre même de Lossky. De même que l'œuvre du Christ atteint les personnes autant que la nature dans le mystère de l'Église. Effectivement, l'ecclésiologie de Vladimir Lossky s'appuie essentiellement sur ce qu'il appelle la distinction identité, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, entre les pôles nature et personne. Chacun des pôles renvoie à l'autre. Il n'existe pas de nature humaine sans personne. Ce serait une abstraction platonicienne. Et il n'existe pas de personne sans nature. Ça n'a pas de sens. Puisque par définition, la personne, c'est l'hypostase, autrement dit, ce qui soutient la nature, ontologiquement. Il n'en reste pas moins qu'on s'interroge sur le bien fondé d'une répartition schématique entre, d'une part, le soin de la nature attribué au Christ, et d'autre part, l'édification des personnes dévolues à l'Esprit-Saint. Vladimir Lossky est même allé, comme on le sait, jusqu'à distinguer deux économies dans sa théologie mystique, consacrant un chapitre à chacune des deux. Chapitre 7, intitulé « Économie du Fils », chapitre 8, intitulé « Économie du Saint-Esprit ». Sa vision de l'Église se trouve résumée dans son commentaire de Éphésiens 1, 23, que Françoise a évoqué également tout à l'heure. « L'Église est son corps ». Et son corps se rapporte au Christ, je cite Éphésiens 1, 23, « la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Dans cette définition paulinienne de l'Église, chacun des pôles ecclésiologiques est, selon Vladimir Lossky, mentionné dans un demi-verset. Le Christ est la tête de l'Église qui est son corps, et d'autre part, selon lui, le Saint-Esprit serait celui qui remplit tout en tous. Cette dernière interprétation donnée au second demi-verset est peu convaincante, sans compter le fait que nulle part, à notre connaissance, ni dans la tradition des pères, par exemple Saint Jean Chrysostome, dans son commentaire, ni chez les exégètes modernes, L'expression « la plénitude de celui qui remplit tout en tous » ne renvoie à la personne de l'Esprit-Saint, mais au Christ. Cependant, l'important ici, c'est que, à défaut d'une bonne exégèse, nous avons une bonne dogmatique. L'important est moins la pertinence de l'exégèse que la vision ecclésiologique si équilibrée qui met en relief les rôles conjoints et indissociables du Fils et de l'Esprit. Si pourtant Vladimir Lossky a accusé ainsi la polarité entre les œuvres du Fils et de l'Esprit, en allant jusqu'à parler de deux économies, c'est sans aucun doute pour souligner l'importance égale des rôles respectifs des deux mains du Père dans la vie ecclésiale. N'oublions pas le contexte de rédaction de l'essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient. Il s'agit du recueil d'un cycle de conférences donné par Vladimir Lossky pendant la Deuxième Guerre mondiale à un public catholique français qui désirait découvrir la théologie orthodoxe. L'accent placé sur la pneumatologie était indispensable face à une Église catholique romaine défendant une ecclésiologie qu'on pourrait qualifier de christomoniste, où l'Esprit-Saint avait la portion congrue et qui devait son défaut, selon Vladimir Lossky, à la théologie du filioque, l'idée que l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils, donc qu'il procède du Fils, et donc qu'il devient une sorte d'auxiliaire du Fils, et qui n'a pas, en fait, dans la vie de l'Église, la même importance que le Fils. Pour Henri de Lubac, par exemple, un contemporain de Vladimir Lossky, il est né un petit peu plus tôt, il est mort beaucoup plus tard, la Pentecôte amène le Christ incarné à naître personnellement dans les chrétiens. Et en s'appuyant sur la réflexion de Bérulle, le père de l'école française, 16e-17e siècle, sur le mystère de l'incarnation, qui est pour Bérulle un mystère permanent et non une action passagère, dans le fait que le Christ naît dans le cœur des chrétiens, de Lubac reprend de Johann Müller, un grand théologien catholique allemand du XIXe siècle, il reprend l'idée d'une incarnation permanente, entre guillemets, du Fils de Dieu. L'Église est donc en quelque sorte l'incarnation continuée. À cette ecclésiologie catholique qu'il connaissait bien, Lossky répond. Il répond implicitement. Il répond dans sa théologie mystique de l'Église d'Orient, page 156. La Pentecôte n'est pas une continuation de l'incarnation. Elle est sa suite, sa conséquence. La créature est devenue apte à recevoir l'Esprit-Saint et il descend dans le monde, rempli de sa présence l'Église, rachetée, lavée, purifiée par le sang du Christ. Fin de citation. Donc nous voyons que cette théologie est vraiment une réponse à l'ecclésiologie catholique de l'époque. Vladimir Lossky s'en est expliqué dans son essai sur le troisième attribut de l'Église, publié dans le troisième livre, « À l'image et à la ressemblance de Dieu ». Et il dit la chose suivante. « Vouloir fonder l'ecclésiologie uniquement sur l'incarnation, voir dans l'Église une continuation de l'incarnation, c'est oublier la Pentecôte, c'est réduire l'œuvre du Saint-Esprit à un rôle secondaire, celui d'un émissaire du Christ, d'un agent de liaison entre le chef et les membres du corps. » Fin de citation. Cette observation judicieuse dénonce donc une dévaluation de fait de la place éminente de l'Esprit-Saint dans l'Église, dévaluation qui commence en théologie trinitaire, lorsque, trop souvent, l'Esprit-Saint est réduit au lien d'amour qui existe entre le Père et le Fils. Cette dépréciation entraîne en ecclésiologie l'accentuation portée sur l'unité collective au détriment des personnes dans leur singularité, ce qui implique que les membres du corps ecclésial sont vus comme unis à la tête, soit par une sorte de fusion mystique, soit par une contrainte extérieure, comme dans l'augustinisme janséniste par exemple. En tout cas, sans respect de la liberté personnelle. Et pour Vladimir Lossky, précisément, notre liberté ne peut être préservée face à la grâce divine que par l'Esprit-Saint, qui manifeste en nous la divinité du Fils et qui nous permet de recevoir celle-ci en toute liberté. Aujourd'hui, un demi-siècle après la rédaction de l'œuvre de Losky, dans un contexte historique renouvelé, il me semble périlleux de continuer pourtant à parler de plusieurs économies au sein de la Trinité. Contre l'Écriture, d'abord, 1 Timothée 1,4, qui parle de l'économie tout Théou, l'économie de Dieu, contre la tradition des pères, à commencer par Irénée, qui parle toujours de l'économie de Dieu, et contre les conciles, me semble-t-il, sauf erreur. L'emploi serait malheureux. Pourquoi ? Parce qu'il risque d'alimenter une sorte de trithéisme verbal, l'idée qu'il y a 3 personnes qui agissent, chacune pour sa part. On peut imaginer quand même qu'elles se mettent d'accord, mais l'idée que, en tout cas, on se concentre par exemple sur l'Esprit Saint, mais on oublie que quand l'Esprit agit, le Fils aussi agit, et réciproquement. Donc, de véhiculer l'idée fausse que dans l'histoire du salut, parfois c'est le Fils qui agit, parfois c'est l'Esprit. En fait, il n'existe qu'une seule économie divine, car un seul Dieu, car un seul Père, source de tout. Il est regrettable d'ailleurs d'évacuer le Père de l'économie divine, en ne retenant que le Fils et l'Esprit. Parler de la dyade économique, comme on le lit chez le Père Serge Bulgakov. N'oublions pas les paroles de Jésus lui-même dans l'évangile de Jean. « Mon Père travaille, et moi aussi je travaille. » Donc ce n'est pas seulement le Fils et l'Esprit qui travaillent, Jean 5, 17. La bienveillance du Père n'est pas une abstraction. Elle est à l'œuvre, totalement impliquée par le Fils et dans l'Esprit. Vladimir Losky a lui-même nuancé à la fin de sa vie le schéma développé dans sa théologie mystique. Il parlera non plus de 2 économies du Fils et de l'Esprit, mais d'une seule économie de la Sainte Trinité accomplie par 2 personnes envoyées par le Père dans le monde. Il faudrait donc plutôt parler d'une unique économie trinitaire différenciée selon chacun des 3 modes d'existence en Dieu, donc une et diverse. On pourrait conclure ce point en rappelant que pour Vladimir Losky, le rapport entre l'œuvre du Christ et celle du Saint-Esprit apparaît comme une antinomie et non pas comme une opposition. Il souligne sans cesse que l'œuvre du Christ et celle de l'Esprit sont liées et inséparables. Le Christ, écrit-il, crée l'unité de son corps mystique par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se communique aux personnes humaines par le Christ. C'est d'ailleurs dans l'accord parfait entre ces 2 œuvres, entre les pôles unité et diversité, nature et personne, que consiste, pour Losky, ce qu'il appelle donc la catholicité avec la tradition, le 3e attribut de l'Église. Et j'en viens au 2e point, la sobornost, ou la catholicité. Selon l'approche des slavophiles, au 19e siècle russe, il n'y a dans l'Église que des membres solidaires, comme dans un corps vivant, et qui n'ont d'autres liens que ceux d'une solidarité spirituelle vivante, les liens de l'amour mutuel. Cette idée est reprise aujourd'hui par un bon nombre de théologiens orthodoxes, vient directement d'Alexis Komiakov, et on l'a trouvée aussi chez Ivan Kirillevski. La pensée de Komiakov s'était élaborée en réaction contre l'Occident et la culture occidentale, coupable, selon lui, d'avoir avili la vie, en la spécialisant, en la compartimentant, en lui donnant une orientation utilitaire. Alors que le génie de l'orthodoxie et de l'homme orthodoxe réside, dit Komiakov, dans l'indivision de la vie. En réaction aussi contre le hiérarchisme étouffant de l'Église de l'Empire russe, à laquelle la sobornost devait rendre un souffle et une liberté intérieure. On sait que c'est de l'adjectif slave sobormaya, l'épithète pour l'Église qui a remplacé à partir du XIVe siècle l'ancienne désignation katholicheskaya, catholique donc, dans le symbole de foi en Russie. C'est donc à partir de cet adjectif sobornaya qu'Alexis Komiakov a créé ce néologisme de sobornost. Sobornaya provient du substantif sabor, le rassemblement. La notion de sobornost ne se limite pas à la convocation formelle des conciles, mais elle exprime la conciliarité, la symphonicité de l'Église, l'unité dans la pluralité. Mais pour Komiakov, qui n'a cessé de nier toute autorité extérieure pouvant s'exercer sur la vie ecclésiale, cette unité est organique. La Sobornost s'oppose pour lui autant à l'autoritarisme légaliste du monde catholique romain qu'au fractionnement individualiste du monde protestant. Elle désigne idéalement l'Église en tant qu'organisme dans lequel en même temps il ne peut exister ni individualisme ni coercition de la part des instances religieuses. La question donc du rapport entre personne et communauté, qu'elle soit ecclésiale ou nationale, a été l'objet d'un vif débat entre les penseurs de la diaspora russe, ici même au XXe siècle. Représentatif de la philosophie religieuse, le père Serge Bulgakov, par exemple, soulignait dans son approche ecclésiologique la nécessité de dégager, dit-il, l'idée de rassemblement sobornost. L'Église est un organisme ou un corps, une vivante unité multiple. De nombreux membres s'y réunissent et des dons divers y sont distribués, tandis que la pluri-unité de l'ensemble est récapitulée par le Christ et animée par l'Esprit-Saint. Fin de citation de Bulgakov. En d'autres termes, le fait que les divers charismes personnels et les enseignements des saints puissent s'associer harmonieusement, sans entrer en contradiction, reflète cette conciliarité ecclésiale. Vladimir Lossky, quant à lui, a repris positivement le meilleur des intuitions de cette théologie russe sur la nécessaire solidarité entre la personne et la communauté ecclésiale. Donc je crois que cela, il faut le souligner, contre une vision, on pourrait dire, un peu artificielle, un peu facile, qui consisterait à dire que Vladimir Lossky a fait table rase de toutes ses sources, de tout son héritage culturel. Il n'en est rien. Sur ce thème, comme sur d'autres, par exemple la kénose, on voit qu'il est tout à fait l'héritier de l'école russe, mais une école qu'il a, on pourrait dire, réinterprétée, critiquée dans le bon sens du terme, au nom même de la tradition. Le métropolite Jean Zizioulas, tout en saluant en Vladimir Lossky, le premier théologien qui ait cherché une vraie synthèse entre christologie et pneumatologie, a cru naguère voir en lui, je cite, un représentant typique de la tradition slavophile d'un mysticisme de la Sobornost. En m'appuyant sur l'examen attentif des écrits de Lossky, je pense avoir montré de façon convaincante dans mon travail de maîtrise le caractère infondé de ces allégations du métropolite de Pergame. Je n'entre donc pas dans les détails. Vladimir Lossky s'est montré très critique à l'égard de la notion de Sobornost. On va voir en quoi, justement, il a en quelque sorte filtré cette intuition. Il évite presque systématiquement d'utiliser le terme. Au contraire, il s'attaque à la mystique qui lui est associée. D'emblée, il se déclare sceptique envers les tenants de l'idée, développée par les slavophiles, que l'adjectif « soborni » représenterait une notion intraduisible dans les langues occidentales. Pour lui, la sobornost ne désigne rien de plus que la catholicité, même si le terme possède étymologiquement une connotation spécifique en russe. De plus, l'ecclésiologie de Komiakov, à travers l'élaboration de la notion de sobornost, témoigne, pour Lossky, d'un romantisme, ayant l'idéalisme allemand en arrière-plan, qui dissout la personne dans une vague supraconscience, un instinct collectif, essentiellement impersonnel, fondé sur la personne de l'Esprit-Saint, mais non relié aux personnes humaines. Vladimir Lossky considère que Komiakov n'a pas développé le moment anthropologique dans sa théologie de l'Église, n'a pas réfléchi sur le sens même de la personne humaine, si vous voulez. À l'universalité abstraite de la sobornost, il faut, comme le dit Lossky, substituer la concorde absolue de la diversité catholique. Vous voyez typiquement ces expressions antinomiques dans la même phrase, concorde de la diversité. Et ça, c'est très important. Ça, c'est toute la pensée si riche de Vladimir Lossky. C'est d'ailleurs dans l'accord parfait, encore une fois, entre ces pôles unité et diversité que réside le sens même de la catholicité. Autrement dit, la catholicité, ce n'est pas une unité uniforme. C'est l'unité dans la diversité. On doit ici clairement souligner le tournant radical opéré par la théologie de Losky dans son approche néopatristique de l'Église, tout en considérant peut-être comme un peu sévère son jugement sur la Sobornost. En effet, si l'on admet que cette notion doit être complétée par une véritable anthropologie personnelle, personnaliste même, elle ne constitue pas moins un puissant antidote face au juridisme ecclésiastique et face à l'individualisme consumériste qui menace nos communautés ecclésiales aujourd'hui, en Orient comme en Occident. La Sobornost n'est pas une doctrine morale, mais c'est une intuition de la solidarité qui unit les membres du peuple de Dieu et donc au-delà tous les hommes entre eux. Conclusion sur la personne et sa dimension kénotique. Je voudrais donc conclure sur ce thème qui découle aussi de l'ecclésiologie de Vladimir Losky, de sa vision d'une Église à l'image de la Sainte Trinité. Comment, en recevant la vie même du Dieu trinitaire dans l'Église, la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu peut-elle peu à peu s'accomplir dans la mesure où être une personne est à la fois un donné, l'image, et une vocation, la ressemblance. La relation de la personne dans le dépassement des limites de sa nature individuelle possède un paradigme pour Vladimir Losky, c'est celui du Christ. Le mode d'existence intégralement personnel, et non pas individualiste, du Christ, se trouve pleinement manifesté dans sa kénose, expression empruntée à l'épître aux Philippiens de saint Paul, chapitre 2. La kénose n'est rien d'autre pour Vladimir Losky que, je cite, « le mode d'être de la personne divine envoyée dans le monde ». Par sa kénose, la nature divine du Fils restait cachée sous la figure de l'esclave. Là, il fait directement allusion à cette morphée doulou dont parle saint Paul dans cet épître aux Philippiens. Mais, dit-il, dit Losky, sa personne se manifestait clairement. Par son libre renoncement à l'être pour soi-même, le Seigneur Jésus témoigne de ce qu'en sa personne, la nature humaine, se trouve non seulement assumée, mais proprement dépassée et offerte à la volonté divine de salut sur toute l'humanité. Même si ce dépassement, loin de se réaliser mécaniquement, ce dépassement passe par la sueur de sang du Golgotha. Et Vladimir Losky souligne aussi la présence d'une autre kénose, celle de l'Esprit Saint, dont ne parle pas saint Paul directement, dans l'économie divine. Mais elle est en quelque sorte inverse de celle du Fils. Au lieu de masquer sa nature et de manifester sa personne, l'Esprit dissimule sa personne et manifeste sa nature divine dans le don de la grâce. La grâce qui rayonne de l'Esprit, mais qui cache sa personne. Soulignons la portée ecclésiologique de cette dimension kénotique de la personne divine, des deux personnes divines, mise en valeur dans la vision loskienne. Ce qui est vrai de la tête l'est aussi des membres du corps ecclésial. La kénose du Fils de l'homme apparaît comme le modèle de la vraie liberté des enfants de Dieu. Vladimir Losky souligne maintes fois que la perfection de la personne consiste dans l'abandon, mais un abandon actif, pas une passivité, dans le renoncement à l'être pour soi-même. De même que le Christ, et en Christ, chaque personne humaine est appelée à évacuer d'elle-même l'individu autosuffisant et à approfondir le mode d'existence inauguré par son baptême, qui est un mode d'existence kénotique, elle peut le faire par une vie ascétique en Église avec le secours de l'Esprit-Saint. À ce propos, Vladimir Losky, comme de son côté le père Paul Florensky, souligne une opposition entre spiritualité chrétienne de l'Occident et de l'Orient. Il ne faut pas, dit-il, comme l'enseigne la spiritualité occidentale médiévale, imiter le Christ, mais comme le proclame l'Orient chrétien, devenir conforme au Christ par la grâce acquise du Saint-Esprit. On trouve cela dans la théologie mystique, page 242. Cette opposition nous semble scolaire et stérile, caractéristique de quelques rares schématismes auxquels se prête parfois notre auteur. S'il est exact que l'Occident chrétien prêche davantage l'imitatio que la conformatio du chrétien à l'égard du Christ, L'inverse est-il vrai pour l'Orient chrétien? Les exemples abondent d'auteurs ascétiques d'Orient, depuis les origines, qui prêchent en même temps l'imitation du Christ et l'identification au Christ. Que ce soit Ignace d'Antioche, Saint Basile, jusqu'à Nicolas Cabasilas, je prends quelques exemples au hasard, je n'ai pas fait d'études là-dessus, ce ne serait pas très difficile. Sans parler de la spiritualité russe, avec par exemple Cyril de Tourov, qui écrit « Avec vigilance, imite la vie du Christ », ou encore Saint Icône de Zadonsk, là encore, etc., etc. L'opposition apparaît forcée, car chacun des aspects appelle nécessairement l'autre. Il reste que cette dimension kénotique de la vie personnelle, en Christ et à l'image du Christ, nous est révélée par la croix que chaque chrétien est appelé à porter pour suivre le Christ. Héritier d'une grande tradition spirituelle russe, illustré notamment par Saint Philarète Drazdov, Saint Philarète de Moscou, du XIXe siècle, Vladimir Lossky souligne que la croix révèle à la fois ce qui caractérise l'être personnel de Dieu et ce qui est possible à l'homme. Le renoncement à l'existence pour soi exprime l'attitude de l'homme la plus authentiquement personnelle. Par le don et l'oubli de soi qu'elle manifeste, la kénose ne peut pas ne pas évoquer la péricorèse trinitaire, c'est-à-dire cette communion vivante entre les personnes de la Trinité, que l'on s'imagine comme une sorte de danse, comme l'indique étymologiquement le mot grec péricorèse. Péricorèse en vertu de laquelle chaque personne divine s'offre totalement aux autres et contient en elle-même les deux autres. On voit ainsi comment Vladimir Lossky nous montre à quel point la vie en Église nous introduit et nous fait communier au mystère même de la Sainte Trinité.